Bonjour. Vous allez entendre l'enregistrement du colloque du 21 janvier 2026 organisé à la Maison des Réfugiés à Paris, intitulé « Quelle psychanalyse pour penser les dominations et soigner leurs effets ?» Intervention de Bruno Clavier, l'occultation de l'inceste et des violences sexuelles dans la psychanalyse à travers les 5 psychanalyses de Freud.
Nous avons donc le plaisir et l'honneur de donner la parole à Bruno Clavier, qui est psychologue, psychanalyste, et qui, comme je crois la plupart des intervenants, n'est pas dans une société de psychanalyse. Je crois que c'est une condition intéressante pour avoir une certaine indépendance d'esprit, et qui a beaucoup travaillé sur le transgénérationnel, son livre « Les fantômes familiaux » et sur la question justement de l'inceste et de l'abandon des neurotica, de la découverte de l'inceste par Freud. Merci beaucoup Bruno, nous te donnons la parole.
D'accord, bonjour. Donc je remercie Claire Mestre et Daniel Delanoé de me faire confiance une fois de plus. Voilà, j'ai plein de choses dans la tête. Déjà, l'idée de je n'appartiens à aucune école. En mai 68, j'étais à la Sorbonne, en fait. Voilà, j'occupais la Sorbonne en mai 68, enfant. Et en mai 68, il y avait marqué « Comment penser librement à l'ombre d'une chapelle ?» Ça m'est resté. « Comment penser librement à l'ombre d'une chapelle ?» Je trouvais que c'était une belle phrase. Donc voilà, je voulais dire que ce qu'ils font là sur les dominations, c'est fondamental, vraiment toutes les dominations. Et puis alors, je remercie Tammy Ayouch parce que il m'a interpellé quelque part. Mais je vais vous dire pourquoi. J'y pensais pas du tout parler de ça. Vous inquiétez pas, je vais pas trop en parler. Mais j'étais abusé par mon grand-père et mon grand-père était un grand colonialiste. Et après avoir fait tous les pays d'Afrique et d'Asie en tant que colonel de l'armée française, je ne sais pas trop ce qu'il a fait là-bas, il a pris sa retraite, puis là il a violé ses petits-enfants, dont moi. Je vois qu'il y a un grand blanc, vous inquiétez pas, ça va. Mais c'était pour dire que ça m'a interpellé, parce qu'il a parlé de ça quelque part. Il a dit ça a commencé là-bas. Vous voyez, et donc c'est venu me taper dedans en me disant « Ah ouais, ça a commencé là-bas aussi ». Oui, bon, je ne vais pas parler de moi. Alors, il y a une petite erreur. Je ne vais pas parler des cinq grandes psychanalyses. Je vais parler vraiment du passage de Freud, de ce qu'on appelle l'abandon de la neurotica. C'est-à-dire le fait que Freud a une première thèse. Je vais essayer, c'est pas beaucoup une demi-heure, mais je vais essayer d'aller assez vite pour expliquer ça. Et puis que cette thèse, globalement, comme a dit Daniel, c'est 3 ans. Et c'est 3 ans, et puis tout d'un coup, patatras, c'est fini. Il dit le contraire de ce qu'il a dit avant. Et que tout est là. C'est-à-dire que, toute l'histoire de la psychanalyse, elle est là. Ce qui fait que quand on me demande qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis freudien maintenant, mais totalement. Jusqu'en 1897. Voilà, mais vraiment. Et je milite pour qu'on fasse la psychanalyse de Freud des 3 années éblouissantes quand il croyait à la réalité. Hein, je dis bien, il croyait à la réalité. Alors, je vais d'abord parler de deux choses. Ça, c'est les livres que j'ai faits, on s'en fout. Et... on s'en fout.
On s'en fout pas,
c'est pas le lieu. J'ai mis des diapos. Alors, Clermès me disait attention, on n'écoute pas quand il y a des diapos, donc je vais vous fâcher si vous écoutez pas. Ne faites pas que lire. Hein, voilà. Mais je les ai mis déjà parce que des fois, on dit des choses et il y a des gens qui disent que c'est pas vrai. Il y a un des plus grands psychanalystes français qui m'a dit. Une fois que quelque chose, la fameuse lettre, une lettre de Freud, n'existait pas. Donc il fallait montrer. Donc c'est pour ça que je montre les textes, pour dire que ça existe. C'est des choses qui existent. Alors, dans cette lettre de l'abandon, quand il dit qu'il n'y croit plus, j'ai gardé 2 choses. Il y a plein de choses. Dans cette lettre-là, il y a plein d'âneries. Je suis désolé de le dire, c'est vraiment des... Si on réfléchit, ça n'a pas de sens. Et quand j'étais à la fac, j'étais à Paris 7, on avait fait un semestre sur cette lettre. Et quand j'ai relu après, j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, je vais prendre la première chose. Je lis la phrase, le constat de la fréquence inattendue de l'hystérie, alors qu'une telle extension de la perversion vis-à-vis des enfants est quand même peu vraisemblable. C'est-à-dire, on va partir sur une théorie qui n'est absolument pas scientifique, elle dit juste, bah, c'est pas possible. Vous voyez, un peu comme dans une famille, tonton a abusé la nièce, bah, c'est pas possible. Il suffit de dire que c'est pas possible pour que ça suffise. Bon. Il dit c'est peu vraisemblable. Et il dit rien d'autre. Ben, moi, j'essaie de vous montrer le contraire. Et deuxièmement, très important, il n'y a pas de signe de la réalité dans l'inconscient, de sorte que l'on ne peut différencier la vérité et la fiction investie d'affect. Ah, il y a mis 3F. Ça aussi, c'est fondamental. Alors, il y a un prof de fac à qui j'en parlais qui me disait « Mais non, mais c'est pas important. » Je dis « Si !» Et pour preuve, il y a quelques jours, j'ai reçu, il y a un colloque sur l'inceste qui va avoir lieu en juin. Alors j'ai dit, tiens, je fais un colloque, puis on m'envoie une lettre sur un colloque. Je ne veux pas attaquer personne. Mais ce colloque de juin, deux jours de colloque, l'argumentaire, j'aimerais vous en donner des petits extraits, c'est carrément la thèse de Freud de l'abandon de la neurotica. Il y a dans le mot du colloque, vous savez bien que l'inconscient ignore la réalité. Il y a ça aujourd'hui en 2026 et que tout le reste du texte est effroyable. Je le dis, c'est effroyable ce qu'on peut voir encore aujourd'hui. Bon, je dis ça pourquoi ? Parce que c'est pas pour rien qu'ils ont dit ça. C'est fondamental. Moi, je vais essayer de vous montrer que c'est le contraire. C'est-à-dire quand Freud dit ça, c'est exactement le contraire. L'inconscient est pétri de réalité. L'inconscient, c'est le réel et c'est plutôt le conscient qui fait un peu ce qu'il veut. C'est le conscient qui ne sait pas trop. L'inconscient. Freud a dit à un moment donné, pareil, il est revenu là-dessus. Il a dit, l'inconscient ignore le mensonge. C'est très important. L'infantile, c'est l'inconscient. Et l'inconscient ignore le mensonge. Puis après, il dit, bah non, bah pas toujours et tout ça. Si, ça veut dire que l'inconscient, est, je le répète, est pétri de réel. Et donc, pour résumer, bah, qu'est-ce que nous dit Freud ? Bah, y a peu d'abus sexuels commis sur les enfants. Première chose, qui l'étaye pas, il dit... Ça ne serait pas vraisemblable, c'est pas possible. Bon, voilà. Et deuxième, il n'y a pas de trace de la réalité d'abus sexuels dans l'inconscient, parce que c'est pour ça qu'il le dit. Hein, il dit qu'on ne pourra pas les distinguer des fantasmes. Je reviendrai en deux sur la notion de fantasme. Première chose, je vais aller à l'actualité aujourd'hui, alors c'est toujours quelque chose que je projette, c'est quelque chose qui date de 2020. Je vais aller assez vite là-dessus, mais globalement... les chiffres en 2020, ça veut dire qu'il y a 7 millions en France de personnes qui déclarent avoir subi l'inceste. Enfants, c'est évidemment. Et qui déclarent. Et je dis toujours, ces chiffres, si vous regardez en 2009, il n'y en avait que 2 millions. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux ? Il y a MeToo. C'est tout, c'est comme ça. C'est ça qui a changé la donne. Et ça, c'est le chiffre minoré. C'est le plus petit chiffre qu'on peut dire. Pourquoi ? Parce que dedans, vous n'avez pas les amnésiques. Ils sont une multitude d'amnésiques. Dans l'enfance, et vous n'avez pas le déni. Ils sont une multitude. J'ai rencontré une multitude de gens qui disent « il m'est rien arrivé », puis après ils racontent des horreurs. Bon. Ça veut dire que je vais même partir de là, 7 millions. Même on part sur le petit chiffre, 7 millions, et puis ensuite on va rajouter la civise dont Daniel a parlé tout à l'heure. Il y a ce chiffre incroyable, 160 000 enfants chaque année. Ça veut dire que dans 10 millions, ils sont 1,6 million de plus. Ça veut dire qu'on a aux alentours de quelque chose, allez, on va dire 7, je continue 7 millions, pour moi c'est plus que 7 millions, largement. Et puis après, je me suis posé une question, je vais être très rapide là-dessus, je me suis dit, mais il y a combien de gens en thérapie ? Et puis après, j'ai regardé les chiffres, tout récent. Alors, en 2024, alors, déjà, il y a 20 ans, 7% de la population avait recours à la psychothérapie. Thérapie de façon suivie. Ça fait 4 millions de personnes. Et en 2024, 12 millions de personnes ont consulté. Alors, il y a 8 millions, c'est les psychologues, 4 millions en psychiatrie, il n'y a pas les chiffres des psychanalystes. Bon. Sachant que vous voyez, il y a les chiffres, il y a 13 500 psychiatres en France, 27 000 psychologues cliniciens et 5 500 psychanalystes déclarés en 2024. Alors, moi, je fais le rapprochement à peu près, je me dis, il y a 5, 7 à 10 millions de personnes abusées dans l'enfance, et vous avez 7 à 10 millions de personnes qui consultent. J'ai dit, est-ce, c'est juste, je pose une question. Y a-t-il un rapport ? C'est très important. Pourquoi je vous dis ça ? Je soutiens qu'une majorité des gens qui vont en psy ont quelque chose à voir avec les violences sexuelles, de façon personnelle ou transgénérationnelle. Et je le dis, et vous avez, donc c'est pas le sujet non plus aujourd'hui, et vous avez de l'autre côté, rien qui n'est fait pour accueillir ces gens-là. C'est-à-dire, premièrement, de réviser cette théorie, parce que c'est très important. Alors, je vais aller au deuxième point, le fantasme. Moi, je travaille avec cette première définition de Freud, pas la deuxième. Cette première, c'est ça. Regardez, c'est limpide. Tout se ramène à la reproduction de scènes. Les unes peuvent être obtenues directement, les autres seulement en passant par des fantaisies, fantasmes. Placé devant, c'est extrêmement important, placé devant. Les fantaisies proviennent de ce qui a été entendu et compris après coup. Bien sûr, elles sont vraies dans tout le matériel qui le constitue. C'est-à-dire, comprenez bien, le fantasme, c'est une vérité. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est ce que nous dit Freud, c'est comme ça que je le comprends, et cliniquement ça marche, c'est la façon de penser le traumatisme. Je prends un exemple, une femme violée dans son enfance par son père ne fera pas forcément le rêve ou le cauchemar qu'elle a été violée par son père. Par contre, elle va venir un jour, elle va dire « j'ai été violée par un loup hein ».« J'ai été violée par un loup », ça veut dire quoi ?« J'ai été violée par un loup », ça veut dire que le fantasme du loup me permet de penser le viol impensable par mon père. Hein. Vous voyez, c'est juste une anecdote comme ça. Il y a 8-10 ans, il y a une psychologue clinicienne qui vient pour sa première séance en psychanalyse avec moi. Première séance, elle me dit « Ah, hier soir, en partant presque, hier soir j'ai rêvé que je faisais l'amour avec vous. » Je dis « Quoi ? C'est quoi ça ?» Voilà ce que je lui ai dit. Et heureusement que j'ai parlé. Et vous savez ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» 10 ans avant, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais dit, oh là là, l'Œdipe, très très fort l'Œdipe, hein. Ah, elle démarre très fort, ça va être du sport. Mais je ne suis plus dupe. Je dis, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ben, elle me dit rien, je dis, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Elle me dit, peut-être j'ai été abusée par mon psy d'avant. Peut-être. Et puis on va travailler là-dessus des années, un abus effroyable par son psy d'avant. Okay, je ne vais pas aller plus loin sur ce qu'il lui a fait. Mais vous comprenez, c'est ça qui était ça. Et si j'avais eu la théorie du fantasme, qu'est-ce qu'on faisait ? On s'embarquait sur l'Œdipe pour 10 ans. Pendant 10 ans, je lui aurais dit, ah oui, mais vous avez désiré papa. Oh là là, oui, mais partant, j'ai fait un viol, que si, que ça, j'ai fait un rêve de viol, et j'aurais fait ça. C'est ça, ça c'est la clinique. Alors, ça va faire quoi ? Ça va faire un basculement chez Freud. Vous voyez, en septembre 97, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et puis on voit après, c'est un exemple, par exemple. Je vous dis ça parce que ça va être important sur ce qu'on dit actuellement. Je dus cependant reconnaître que ces scènes de séduction n'avaient jamais eu lieu. Entendez bien, jamais eu lieu. Il n'y a rien eu. Qu'elles n'étaient que des fantasmes imaginés par les patients. Hein, les symptômes névrotiques ne se reliaient pas directement à des événements réels, mais à des fantasmes de désir. C'est capital. Donc c'est pour ça que je rejette cette théorie et elle n'est pas aménageable. Donc on verra dans les questions, parce que évidemment, je sais, les psys, ils s'arc-boutent et ils disent « Mais non, mais on peut faire 50-50. » Il n'y a pas de 50-50. C'est-à-dire, il y a de l'abus, c'est comme ça, et l'Œdipe, c'est une petite chose qui se règle assez facilement s'il n'y a pas eu d'abus. S'il y a eu abus, vous n'y arrivez pas. L'Œdipe, vous pouvez l'oublier parce que ça va être des années et des années et des années de travail et c'est très compliqué. Comment voulez-vous faire quoi que ce soit d'Œdipe si vous avez été violé par votre père, par votre oncle ou ainsi de suite ? Donc ça c'est important parce que ce n'est pas aménageable et c'est pas gagné. Et c'est pas gagné parce que je vous dis ce colloque ce colloque de juin, on est exactement dans la théorie encore du fantasme. Alors je vais aller toujours pareil, un peu vite, vous avez 3 années fortes, hein, comme a dit Daniel, 95, 96, 97. Et il commence dès 1893 à se gratter la tête. Vous voyez, dès 1892-93, trauma sexuel avant l'âge de la compréhension, toute hystérie qui n'est pas héréditaire, parce qu'il est encore là-dedans, il ne sait pas trop, est traumatique. Hein, donc voilà ce qu'il dit, je continue. Octobre 95, là on commence à le suivre. Et c'est très intéressant parce que il dit à Fliss, ce sont les lettres à Fliss, hein, il dit, je vais te dire le grand secret clinique, je l'ai surligné, c'est l'hystérie et la conséquence d'un effroi sexuel pré-sexuel. Hein. C'est très important, effroi sexuel pré-sexuel, ça veut dire un effroi dans l'enfance. Et quand j'ai redécouvert ces textes, j'ai trouvé que le mot effroi est formidable. C'est exactement ça, c'est de l'effroi. C'est très bien dit, il a très bien dit au début. Et qu'est-ce qu'il dit quand il l'abandonne? Il dit, je vais te confier le grand secret. Vous voyez l'inconscient? Il parle du grand secret, puis après il dit un autre grand secret, que ça n'existe pas. C'est le deuxième grand secret. Alors, je vais aller assez vite, c'est tout un tas de textes où il va dire ça. Vous voyez, quand il découvre, voilà ce qu'il dit. J'éprouve une sorte de joie terne à l'idée de ne pas avoir quand même vécu presque 40 ans pour rien. Quand il découvre ça. Hein. Alors, je vais passer sur quelque chose. À chaque fois, il va parler de cet effroi. Avec Breuer, il va en parler. Alors, il y a Marie Balmary qui est parmi nous et qui a vu ces deux textes. Hein. Il y a deux textes dans les études sur l'hystérie incroyables. Tu les avais mis dans ton livre, je crois. C'est ce texte où il y a un père qui viole sa fille et puis il est en consultation avec Freud et le père est derrière. Et puis à un moment donné, la fille va dire, c'est papa. Et puis papa pleure derrière. Hein. Il dit je m'excuse ou je sais pas quoi. Et Freud nous dit, bien entendu, je laissais là l'affaire et je leur dis au revoir. C'était incroyable. Et c'est-à-dire qu'il y avait à ce moment-là des choses. Il était sans arrêt. Alors là, il y a un texte, par exemple, qui est, c'est pour ça que je vous dis, c'est moi ce que j'ai trouvé tout seul pendant. J'ai ramé pendant 15 ans. Le jour où j'ai lu ces textes, je dis merde, si j'avais su, je les aurais lus plus tôt parce qu'il y avait tout. Il y avait par exemple le fait que c'est à la puberté que les violences sexuelles reviennent. C'est tellement comme ça. Pourquoi les filles sont anorexiques à 14-15 ans, parce qu'elles ont été abusées à 4, 5 ou 3 ans. Et c'est à la puberté qu'il y a un réveil des violences sexuelles. Alors, il y a ce fameux manuscrit K, il parle encore que de ça. Je passe vite, excusez-moi. Et puis surtout, il met toutes les affections. Ce que j'ai mis aussi 15 ans à découvrir, c'est qu'il n'y a pas que l'hystérie, il y a la névrose obsessionnelle. J'ai tellement eu de mal à y arriver. Puis, moi, j'ai reçu beaucoup de psychotiques, des enfants psychotiques et des grands psychotiques. Tous les grands psychotiques que j'ai reçus ont été abusés. À un moment donné, je me dis, mais bon sang, eux aussi. Et lui, il le dit. Vous voyez, paranoïa, les paranoïaques. À la fac, on disait n'importe quoi sur la paranoïa. J'ai entendu des bêtises. Paranoïa, ça veut dire que les parents ne s'entendent pas. Mais je l'ai entendu, des profs de fac qui disaient ça. Mais tout ça pour ne pas dire la vérité. Lui, il le voit, il dit paranoïa, hop. Il y a abus, hystérie, il y a abus, névrose obsessionnelle, il y a abus. Il va parler, cette phrase, elle est magnifique. L'hystérie est donc non pas refus de la sexualité, mais refus de la perversion. Si c'est pas là, ça c'est la plus belle phrase qu'il a écrite. L'hystérie, c'est le refus de la perversion. Et puis après, alors on rentre dans le domaine de la censure. Ça, dans les lettres à Fliss, toutes, à partir de ce moment-là, de 96, toute référence aux violences sexuelles et à l'inceste sont supprimées. Elles sont supprimées jusqu'en France, jusqu'en 2006. Et c'est notre ami Jeffrey Mason, j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, tu sais, heureusement que tu as été là. Parce que c'est lui qui va faire décensurer les lettres et ça nous permet de savoir ça. Donc à chaque fois, et vous en avez une tonne, j'en ai mis un petit peu, mais vous avez à chaque fois des scènes d'abus et ainsi de suite. Puis il écrit deux grands articles où il est très ferme, il dit qu'il a 13 patients. Tous ont été abusés dans l'enfance. Il en fait un deuxième article. Il a 18 patients. Il dit tous ont été abusés. Et il dit cette phrase importante, il y a eu en réalité une infection dans l'enfance. Là, on est en 1896. Ça continue jusqu'en 1897. Et puis, il va y avoir, donc je passe encore parce que là, il y a tout un article sur les fellations et je vais y venir parce que c'est quelque chose qui est qui hante la psychanalyse, la question des fellations. C'est extrêmement important quand vous avez une thérapie par la parole. Hein, la parole, la bouche, qu'est-ce qui se passe avec la bouche? Alors, là, il y a cette... Je vous renvoie à ceux qui s'intéressent sur ce livre, Les lettres à Fliss. Il parle par exemple de l'épilepsie, la psychose. L'épilepsie. J'ai eu des patientes abusées, épileptiques, et il y a un rapport. C'est après l'abus qu'elles sont devenues épileptiques. Pourquoi on ne le dit pas? Voilà encore un autre truc. Il l'avait vu, lui. Il a vu des trucs incroyables. Bon. Et puis, il voit même le côté transgénérationnel. Hein, on en parlait tout à l'heure. Il fait un arbre de l'inceste. Regardez ça, c'est l'arbre censuré. Dans les lettres à Fliss, on a... Non, cet arbre-là n'a peut-être pas été censuré, d'ailleurs. Mais c'est très intéressant. Il monte sur 3 générations, justement, comment on arrive à une psychose par de l'inceste à tous les étages, comme on connaît très bien maintenant aujourd'hui. Il y a pas, c'est systémique, on parlait de systémie tout à l'heure. Il n'y a pas d'inceste tout seul dans une famille, ça n'existe pas. C'est à toutes les générations, et à toutes. Alors on dit, bah non, c'est pas possible, bah parce que c'est caché. Mais c'est comme ça, quand il y en a partout. Il le dit, cette façon transgénérationnelle de transmettre les violences sexuelles. Alors, il continue, là, on est en 97. Hein, il est, et puis, arrive cette grande lettre qui est fondamentale. C'est la lettre où il parle de son père pédocriminel. Cette lettre, elle est tellement incroyable que c'est là-dessus qu'il y a quelque temps... j'ai eu justement un problème avec un des plus grands psychanalystes français, je vais pas le nommer, mais justement, qui me disait qu'elle n'existait pas, cette lettre. Tu peux le nommer ? Je peux le nommer ?
Oui.
Non. Non, il est vivant. C'est un vivant, c'est pour ça que je le nomme pas. Je veux pas d'embrouille.
Tout le monde le sait.
Non, tout le monde le sait pas forcément. En tout cas, il a dit, faut que le nom revienne, je suis tellement...
En tout cas, la planche l'avait dit à Jeffrey Mason.
Montrez-moi la lettre. Eh bien, j'ai vécu la même chose. C'est-à-dire que...
Récemment ?
Oui, il y a... C'est pour la sortie de mon livre, il ne savait pas, parce que j'ai enseigné dans une fac privée où il était directeur de... Il y a quelqu'un qui est dans cette fac ici, je pense d'ailleurs, qui a été... J'ai vu dans un nom. Mais enfin, voilà. Il était directeur de pédagogique. Voilà. Et donc, c'était la réunion de septembre. Septembre, c'est important. Hein. Parce que non, septembre, parce que c'est la lettre de l'abandon de la neurotica. Septembre. Et alors, je dis, il y avait tous les profs qui étaient là, puis je suis au milieu des profs, puis je dis, de toute façon, tout ça, c'est la question du père pédocriminel de Freud. Toute la psychanalyse, elle est hantée par ça. Il me dit, quoi? Comment? Non, cette fameuse lettre n'existe pas. Bon, heureusement, j'ai eu 2 soutiens. 2. On était 3, on a dit... Elle existe, cette lettre. Elle existe. Et là, c'est magnifique, parce qu'un autre prof me l'a sorti, un ami en plus, un prof de fac de psychanalyse, il m'a dit « Oui, mais cette lettre, c'est un fantasme de Freud. » Alors ça, c'est la plus belle perversion qu'on peut faire. C'est-à-dire que là, c'est fini. Là, on a tout fermé. Hein, si, ça veut dire que dans ce cas-là, toutes les lettres de Freud sont des fantasmes. Hein, bon, surtout que... comprenez bien, dans cette lettre, il dit « mon père a été l'un de ces pervers », il ne dit pas « j'imagine que, je pense que, ou peut-être que ». Il le dit. Et il parle de son frère et de ses sœurs. Donc ça veut dire que c'est plusieurs témoignages. On ne sait pas du tout comment il le sait, mais c'est fondamental. Hein. Quand Jeffrey Mason dit « la violence sexuelle et l'inceste est au centre de la psychanalyse », je le redis, c'est au centre de la psychanalyse. Le basculement, il commence à être là. Donc, on est en février 97. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai même produit la lettre, pour que quelqu'un ne me dise pas qu'elle n'existe pas. Hein, elle existe, plus que 5 minutes. Waouh. OK, merci. Alors, il en reparle justement dans la lettre de l'abandon de la neurotica. Il reparle de son père, ça a été censuré. Et puis, il va finir d'en parler, en fait, en 1897. C'est cette dernière lettre. 22 décembre 1897, à partir de 1898, ça n'existe pas. Et là, c'est la lettre la plus terrible. C'est celle où il raconte les choses les plus atroces de sa patiente. Et ça finit comme ça. « Que t'a-t-on fait, pauvre enfant? Assez de mes cochonneries. » Voilà ce qu'il dit à Fliss. J'ai toujours trouvé étrange, j'ai demandé au traducteur En allemand, est-ce que c'est vraiment ça? Et a priori, c'est ça. Assez de mes cochonneries. Je ne comprends même pas pourquoi il dit mes cochonneries. Au revoir. Et il ne parlera plus jamais d'inceste. À partir de 1898, du début 90, il n'en parle plus. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, bah, il va développer sa thèse. Et il va dire, notamment, Tammy Ayouch parlait tout à l'heure de... Enfin, la sexualité infantile, c'est ce livre-là, hein, le livre « Les trois essais sur la théorie sexuelle ». On oublie qu'il a quand même dit là-dedans, premièrement, des personnes ayant subi des violences sexuelles peuvent rester normaux, voilà ce qu'il dit, sans étayer quoi que ce soit. Puis après, il dit « Il n'est pas besoin de séduction pour éveiller la vie sexuelle de l'enfant hein, ». Alors, s'il dit qu'il est un pervers polymorphe, c'est parce qu'il dit « Il porte... » dans sa prédisposition des aptitudes requises. Mmh. Et il n'y opposera que de faibles résistances. Hein, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est l'enfant coupable. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans une psychanalyse de l'enfant coupable. Et c'est fondamental, ce n'est pas en l'air. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on a été formaté, c'est comme ça que j'ai été formaté à la fac. Et c'est comme ça qu'on continue à formater aujourd'hui, je le dis. C'est aujourd'hui, ce n'est pas il y a 20 ans. C'est comme ça encore aujourd'hui, j'ai des échos. Hein, on est encore en train de raconter ça en disant oui alors c'est quelqu'un là, qui passe un DU là, il m'a dit la semaine dernière il m'a dit ils savent bien que le vent tourne alors ils disent non mais vous n'avez pas lu vous savez pas lire Freud mais non il a jamais dit ça voilà ce qu'ils disent à leurs étudiants ben, il faut, je dis aux étudiants lisez ces textes vous allez voir que ce qu'il dit c'est sans appel alors je vais finir là-dessus qu'est-ce qui s'est passé eh bien première des choses c'est ce que j'appelle une cause interne. C'est que si ses frères et sœurs ont été abusés, pourquoi pas lui ? Parce qu'on connaît dans les familles, quand il y en a 3 ou 4, il y en a 10, ils étaient toute une tripotée. Et puis il a eu 30 opérations d'un cancer de la mâchoire. Et c'est justement dans la lettre où il parle des fellations, c'est la lettre où il parle justement des maladies de la mâchoire. Il parle de ça, vous voyez ? Alors c'est pour ça que ce que m'a révélé tout à l'heure Marie Balmarie, elle m'a dit que le 21 septembre, c'est là où il décide de mourir. C'est la date, à la même date que l'abandon de la neurotica. Le 21 septembre. Elle m'a dit ça, c'est un scoop que j'ai eu devant le thé, là. Incroyable. Et il est mort le 23, mais il demande la mort le 21. Le 21 septembre. Vous voyez, il sait bien que quand il abandonne la neurotica, il a fait un choix. Ah, c'est un choix compliqué. Hein. Alors, il n'en parle plus du tout. Et puis surtout, la deuxième cause interne, c'est que j'ai repéré, alors je pense que je ne suis pas le seul à avoir repéré, Marianne Creul a dû le faire, je crois, c'est que c'est un mois avant l'abandon, enfin, c'est le 15 novembre, il dit « l'auto-analyse est impossible ». Et puis un mois après, il ne parlera plus jamais des violences sexuelles. Et moi, je comprends très bien. Quand on est accompagné, on a déjà du mal à travailler ça. Mais quand vous êtes tout seul, laissez tomber. Personne ne va aller se triturer le cerveau, surtout quand on est amnésique. Comment on peut faire quand on est amnésique ? On est amnésique, hein. Il en faut des choses. Et je pense que Freud était amnésique pour lui, mais il a vu pour ses frères et sœurs. Mmh. Bon. Ça veut dire qu'il fait une auto-analyse, c'est un échec. Un mois après, il dit, il n'y a rien, il n'y a pas de violence sexuelle, il ne s'est rien passé et tout ça. Et puis ça, c'est la cause interne. Et la cause externe, évidemment... Il s'est fait ramasser en 1896, et ça, lui, il le ramène, il dit « je croyais que j'avais découvert la source du Nil ». Enfin, il le pense. Et puis, tous les psychiatres qui sont là, ils sont une centaine, c'est glacial. Il le dit, j'ai eu un accueil glacial. Bon. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller contre la société. Alors, voilà, c'est-à-dire que c'est une cause externe. S'il y a un endroit où je ne vais pas le blâmer... Et encore, je vais le blâmer quand même, parce qu'il avait quelque chose de génial dans les mains et que quelque part, il le confisque. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, il faut refaire du Freud jusqu'en 1897, c'est parfait. Tout marche. Vous remettez l'hypnose, vous remettez le MDR, n'importe quoi, ça marche. C'est-à-dire, et il le dit à l'époque, il le dit, ça marche. Et j'ai passé vite des textes, mais dans un texte, il le dit, j'ai vu que ça fonctionnait. Bon. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il rentre dans le déni. Et que le déni va se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, le message que j'essaie de faire passer, c'est de sortir de ce déni-là. Et puis, je pense quand même qu'il n'a pas affronté la société. OK, mais il aurait pu quand même ne pas aller dans la thèse totalement inverse. C'est là où j'ai un reproche, c'est que c'est quand même bien trop, et à ce moment-là, je dirais presque, il le dit lui-même, hein, c'est fou, parce que Ferenczi en parlait après, il parle de l'identification à l'abuseur. Et c'est l'endroit où il a abusé un peu, là, quand même. Hein. C'était abusé de nous vendre ça qui a tenu un siècle et qui est répandu partout. Donc moi, j'ai un peu comme une mission, ma mission, c'est de vous dire stop, il y a un truc qui ne colle pas. Juste, je vais finir là-dessus, parce que je sais que c'est l'heure. J'y tiens, je suis un peu trop guerrier. Mais voilà, ça c'est le colloque de juin 26. Voici le. J'ai envie de vous lire le premier paragraphe. Hein. Alors, regardez déjà. Aujourd'hui, la médiatisation des témoignages d'inceste indique-t-elle une libération de la parole ? J'étais foudroyé par cette première phrase. Je ne sais pas si vous entendez. Ça veut dire, est-ce que la libération de la parole est une libération de la parole ? Bon, ben la libération de la parole, c'est une libération de la parole. C'est bon, pourquoi poser la question ? Est-ce que ça fait une levée du silence ? Ça va où ? Ah, la parole publique qui ajoute au trouble du droit. Ça y est, on y est. Et moi, je vais être honnête, tout de suite, je me suis dit, ah, ils sont en train de protéger Gérard Miller. Parce que c'est... Ben oui. Ben c'est clair, ils sont là, ils s'arc-boutent, ils font « Ouh, ça chauffe !»« Ah, c'est pas bien là, il y a un truc, le trouble du droit mobilise les imaginaires. » Donc ça veut dire que déjà, on est dans l'imaginaire, on retourne au fantasme. Hein, c'est-à-dire que les abus sexuels et l'inceste, c'est de l'imaginaire. Et ça constitue pas toujours un dire, et là, cette phrase, elle m'a assommé. « Dès que nous parlons d'inceste, nous ne savons pas ce que nous disons. » Alors déjà, j'ai cherché, il n'y a pas la source. Je suis sûr que c'est Lacan. S'il n'y a pas la source, c'est qu'il y a Dieu derrière. Hein? S'il n'y a pas la source, c'est que c'est Dieu qui est invisible et qui est là partout. Il n'y a pas de source alors qu'il y a des sources de Freud. Je me dis, c'est une phrase purement lacanienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire fermez vos gueules. Et autre chose, je vais finir là-dessus, la domination. C'est ça la domination. Ça veut dire, vous, victime, fermez-la parce que nous, les psychanalystes, on connaît. Hein, dès que nous parlons d'inceste, nous ne savons pas ce que nous disons. Ça veut dire, que, écoutez, c'est redoutable. Hein, je tiens à dire, c'est ça la domination. Et ça, c'est la domination de la psychanalyse qui a. D'ailleurs, la psychanalyse, malheureusement, ça a été ça. Hein, psychanalyse. Oui. Encore. Bien sûr, je sais pour vous. Comme ça. C'est ça. C'est. On ne sait pas pour les gens et on ne peut pas savoir pour les victimes. Voilà, je voulais finir là-dessus. C'est tout.
Un grand merci, Bruno, que je situerai dans cette série des lanceurs d'alerte avec Ferenczi, Marie Balmary, Jeffrey Masson et toi, qui, en prenant des risques considérables,
là,
vous êtes affronté. Marie Balmary en a fait les frais aussi, puisque son livre « L'homme au statut » était une thèse qui a été interdite par La Planche. Donc, grâce à son ami Maurice Clavel, elle a pu le publier chez Grasset. Voilà. C'est vraiment le moment de rendre hommage à Marie Balmary, Bruno, et puis Jeffrey Masson, qui n'est pas loin, et Ferenczi.
Oui, je voulais dire par rapport. C'est dommage, t'as mis à Youch est parti, là, parce que quand il parlait de La Planche, on était à côté de Marie, puis à chaque fois, on faisait La Planche. Parce que quand même, je le dis très rapidement, la théorie de la séduction généralisée, c'est le plus grand enfumage pour justifier les violences sexuelles. Parce que faut bien lire, il parle des signifiants énigmatiques. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est texto comme ça qu'on l'a dit pendant un siècle, ce sont les mères qui plotent les enfants. Dans le colloque, là, ça se termine comme ça. Hein. Ça se termine contre les mères. Ils en sont encore là. Hein. C'est-à-dire... L'enfant est pur. Vous avez un enfant impur jusqu'à La Planche. C'est un enfant pervers. Puis après, ça dérange. On va pas continuer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On dit, l'enfant est pur. Qui est impur ? La mère. C'est-à-dire que c'est la mère qui plotte l'enfant. C'est ça, les signifiants énigmatiques, je vous traduis, c'est ça. Hein. C'est-à-dire la théorie, ça s'appelle, pas par hasard, théorie de la séduction généralisée. Ça veut dire quoi ? Tout le monde est un séducteur, en particulier les mères. Donc, il n'y a plus de séducteurs. Au revoir. C'est-à-dire, on fait disparaître le séducteur, encore une fois, l'abuseur. C'est pour ça que la planche... quand même.
Merci Bruno. Marie, un commentaire ?
On parlait de tout ce que les psychanalystes freudiens d'après 97 opposent à nos travaux et à, même quand on en remet les textes sous le nez. La dernière que j'ai entendue, c'était dans un petit cocktail où j'étais avec un ami, qui était aussi un doctorant de la planche. Mais lui, il avait réussi à finir sa thèse alors que moi, je m'étais fait virer. Bon. Et à un moment, je parle à un des grands professeurs qui était là et je dis, mais quand même, il a abandonné une découverte. Alors, il m'a dit, non, il a fait deux découvertes à la fois. Alors celle-là, je ne la connaissais pas encore. On pourrait faire un bêtisier de... Oui. Comment est-ce qu'on peut faire deux découvertes, l'un qui est le contraire de l'autre ?
Oui, non, c'est non. Ça. Ouais. Ben, dans la suite de ce colloque-là, dans le texte, il y a marqué, globalement, je vous le dis, l'abandon de la neurotica a permis. Encore. C'est ça qu'ils disent. Hein. Et là, alors qu'est-ce que ça dit ? Ben, quand je l'ai, c'est, il faut savoir. Voilà, l'abandon... Attendez. Ah, ça a permis la découverte du sexuel infantile. Vous voyez, l'abandon de la neurotica a permis la découverte du sexuel infantile. C'est encore dit la même chose. C'est ça la deuxième découverte. Enfin, ça doit être ça. Voilà.
C'est ce que dit aussi Elisabeth Rodinesco. Il faut tenir les deux, l'abandon de la neurotica et la théorie du fantasme. Sinon, on n'aurait qu'une sexologie. Voilà, on a le temps. Une minute.
Je m'excuse, hein, tout ça, j'appelle ça le clivage. C'est ça le clivage. Hein.
Une question. Oui.
Didier Cohen-Salmon. Voilà, je voudrais simplement dire à propos de ce que je viens d'entendre que pour moi, on peut pas mettre sur le même plan la mère qui donne les soins et le père abuseur, simplement pour la raison que ça ne se passe pas en même temps. Et que l'abus est un abus, mais que les soins donnés à l'enfant sont nécessaires à la survie de l'enfant.
Bien sûr.
Voilà. Donc, on ne peut pas dire, et je ne crois pas d'ailleurs, que la théorie de la séduction généralisée infirme tout ce que vous avez développé avec d'autres, et avec quoi je suis tout à fait d'accord.
Si ça infirme, parce que la théorie de la séduction généralisée nous dit que la séduction première vient de la mère. C'est ce qui est dit, hein. C'est texto. Alors là, il faut relire, mais franchement, c'est ce que ça dit et c'est le but, c'est ça. Regardez dans le texte là, il y a marqué ça là. Il y a marqué la mère, attendez. Voilà, Freud ne dit pourtant pas l'équivocité du geste maternel envers l'enfant. Vous voyez, il ne parle que de ça, il ne parle pas des pères abuseurs. Hein, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la même théorie, hein. C'est pour ça.
Bon, on reprendra la discussion tranquillement plus tard.
C'est le piège du mot séduction aussi, je pense.
Oui, je crois que le terme de séduction est tellement polysémique. À mon avis, c'est un mot complètement piégé. Quand on parle de séduction, il faut vraiment définir de quoi on parle. Il vaudrait mieux, à mon avis, ne plus utiliser ce mot tellement il est piégeant. Claire, tu veux faire un mot ?
Non. Merci, bien. Bruno, avec vivacité et conviction. C'est très intéressant. J'essayais juste d'articuler le racial infantile et le sexuel infantile sur la question du déni. Il y aurait des choses... Bon, pour plus tard. Il y a quelqu'un qui veut parler.
Oui.
Oui, bonjour. Audin Sautron. J'avais juste une question sur le rôle de la mort du père de Freud dans le retournement de sa théorie.
Oui, j'ai oublié de le dire, ça fait partie. C'est un an avant. Hein, c'est un an, et ça aussi c'est capital, tout à fait.
Avec le fameux rêve, il faut fermer les yeux,
oui.
Où il y a complètement le retournement de la culpabilité.
Oui, tout à fait.
Marie Belmarie a aussi longuement analysé cet aspect. Merci beaucoup. Merci Bruno. Merci. Bravo.